18h-19h, Time Sport, avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque soir, du lundi au vendredi, de 18h à 19h sur Beurre FM et sur Time Sport, en compagnie de l'équipe de Time Sport pour donner des expertises, pour analyser l'actualité sportive. Et aujourd'hui, on va parler de la Copa América, notamment des stades qui sont un peu vides en ce début de compétition. On parlera également de kickboxing avec notre invité Cédric Doumbé. On parlera de la Coupe du Monde 2019 des féminines et notamment du match d'hier entre l'Écosse et l'Argentine. Enfin, on parlera de la CAN 2019, ça approche. Et pour finir, le PSG et Neymar. C'est parti pour Time Sport.
Time Sport.
Et pour nous accompagner parmi la compo des consultants, Claude Tollet, comment ça va notre coach?
Ça va très bien, impeccable.
C'est ça qu'on veut entendre, impeccable. Oui, j'espère que pour les auditeurs et les auditrices, c'est impeccable également. Simon Balachef.
Buenas tardes, à tout le monde. Bah écoute, ça va très bien. On va parler de la Copa América. Je suis joie.
Ouais, on va parler notamment du match nul entre l'Argentine et le Paraguay. François-Xavier Lambert, comment ça va, François-Xavier?
Salut Guillaume. Salut Simon. Salut Claude. Ça va très bien.
Et les auditeurs.
Salut les auditeurs, bien sûr.
Eh ben ça c'est le plus important. Et pour il y a Kamel Aïd-Kera également qui nous accompagne aussi dans cette émission. Et pour commencer, on va parler du ras-le-bol, notamment de la Copa América.
Time Sport, le ras-le-bol.
Alors le ras-le-bol, évidemment, c'est pas le match de l'Argentine, même si on reviendra dessus avec notre Suramericano Simon Balachef dans quelques instants. En tout cas, depuis le début de la Copa América, il y a un constat qui saute aux yeux, messieurs, c'est des tribunes, voire des stades entiers désertés par le public. Un comble au pays du football, hein, le Brésil. Mais les tarifs, il faut le rappeler, ils sont onéreux, hein, des billets. Ça exclut un peu les classes populaires brésiliennes, n'est-ce pas, Simon?
Eh ben non, mon ami, parce que alors certes c'est dissuasif. Certes, si les prix avaient été plus bas, les stades seraient un peu plus remplis. Mais quand il s'agit de remplir un stade pour un Palmeiras Corinthians, qui est le gros derby de São Paulo, pour un Flamengo Fluminense ou Flamengo Vasco, où les tarifs sont très chers aussi, ou un match de Libertadores par exemple, je peux vous dire que les stades sont pleins.
Alors comment on peut expliquer que pour Uruguay Équateur, le stade est à 80%
bien
vide?
Plus grave. Est bien plus profond que ça. Il faut se rappeler que la Seleção, pour le Brésil, c'est les 400 fromages du pays aux 400 fromages. C'est la Tour Eiffel. C'est un monument et c'est un symbole identitaire du pays. Il faut quand même prendre conscience que sur la scène internationale, tout domaine compris, hein, culturel, sociologique, économique, sportif, le Brésil, sur le XXe siècle, il a été représenté essentiellement par deux choses dans l'esprit des gens: le carnaval, la samba, la fête, la musique, et le football. Le divorce avec la Seleção, bien évidemment, il commence avec le 7-1 en 2014, mais après ça, il accuse le coup de facteurs qui dépassent le football. C'est-à-dire que on a le 7-1 en 2014, s'ensuit l'élection d'Ilma, la réélection qui était la colistière de Lula, l'ancien président, donc de gauche. S'ensuit une crise politique majeure avec un énorme scandale de corruption, le Lava Jato, c'est le nom du scandale, qui touche toute la classe politique, gauche, droite, extrême gauche, extrême droite en tout cas. Le pays plonge dans une espèce de morosité ambiante liée à ces scandales politiques, à du coup un espèce de rejet, ou plutôt un problème d'identification par rapport à la cause nationale.
Le foot, ça devrait être la bouffée d'oxygène.
Et non, justement. Parce que c'est tellement... Le maillot de la Seleção est tellement un symbole de ce Brésil.
Mais les Brésiliens, ils aiment le foot en général.
J'ai pas terminé.
Bon, excuse-moi. Je te laisse faire ton exposé, alors.
Et juste, pour terminer, pour parler de ce symbole, c'est un symbole, et ce symbole, et c'est là... On va en venir. Ce symbole, le maillot de la Seleção, il a été récupéré par la droite et l'extrême droite lors des manifestations qui ont démarré à partir de 2015 contre Dilma, contre la gauche, pour faire l'impeachment, pour la destituer. Chose qui a fonctionné. Il y a eu les élections depuis qui ont divisé le pays autour de l'homme d'extrême droite qui est Jair Bolsonaro, avec comme symbole dans toutes les manifestations ce maillot auriverde qui était à la base un symbole d'unité. Un cas concret, un exemple concret de cette division sur le maillot, c'est que Nike, pendant la Coupe du Monde 2018, a accusé des pertes de ventes énormes. Parce que les gens, t'as une moitié du pays qui n'ose plus porter ce maillot parce que c'est devenu un symbole politique. Tout ce marasme autour de la, comment dire, de la notion d'identité, la notion de nation que représente la Seleção, que représente le maillot à Auriverge, fait qu'il y a un désintérêt total. Lié, enfin, aussi assemblé avec le manque de performance. Hein, mais il y a quand même eu les JO en 2016.
Non mais d'accord. Non mais Simon, on peut aussi remarquer, par exemple, pour le deuxième match, par exemple, de la Copa América, et ça, c'est des faits, que pour le match Pérou-Venezuela, alors que les Péruviens avaient envahi la Russie par dizaines de milliers, en étant parmi les plus représentés en tribune, élus les meilleurs supporters de la dernière Coupe du Monde, là, pour le deuxième match de la Copa América entre le Pérou et le Venezuela, on a quand même que 13 370.
Mais oui, tu limites ça aux Brésiliens. Mais
spectateurs, alors attends.
T'as pas que les Brésiliens qui viennent au stade.
13 370 spectateurs sur une arène qui fait 56 000. Donc, comme le dit François-Xavier, il n'y a pas que les Brésiliens.
Surtout alors, qu'on était impressionnés lors de la Coupe du Monde en Russie de la forte affluence des supporters sud-américains, qu'ils soient péruviens, colombiens ou autres.
Voilà, donc il n'y a pas une explication, je pense, que sur le Brésil. Il y a le fait que voilà, le prix des billets soit onéreux. Il y a certes des divergences.
Plus onéreux qu'un match de Coupe du Monde ?
Non, mais pas plus onéreux qu'un match de Coupe du Monde, mais comment on peut expliquer que les stades sont vides ?
Les Colombiens sont venus en masse, les Uruguayens sont venus en masse, les Argentins sont venus en masse aussi.
Alors, je suis désolé, pas pour contredire ce que tu dis, mais le stade, lors de Uruguay-Équateur, il était à 80% vide, Simon. Donc non, les gens n'arrivent pas en masse. Il y a un problème aujourd'hui dans les stades, lors de la Copa América, ils sont vides, c'est une réalité.
Non mais il y a plusieurs facteurs, je pense que Simon tu t'es attardé sur le facteur sociopolitique et qui est totalement à prendre en compte, mais clairement on peut pas limiter ça aux Brésiliens, il y a beaucoup d'autres supporters qui sont pas présents, ou alors ils sont présents mais ils rentrent pas dans les stades et ça donne des matchs, c'est triste quoi, je veux dire on a l'impression de voir un premier tour de Coupe Intertoto ou un premier tour de...
Ça me rappelle Claude, ça me rappelle tristement la Coupe d'Afrique des Nations.
Bien sûr.
Faudrait aussi voir, quand vous vous rappelez la Coupe du Monde en Russie, voir le ratio dans ces stades pleins entre les invitations qui n'ont peut-être pas été données par la CONMEBOL ou mal données ou mal utilisées et surtout le ratio de locaux russes qui sont venus par rapport au ratio de supporters. Tu cites des 13 000 supporters. Si ces 13 000 supporters sont déjà composés à 90% de supporters étrangers, ça fait déjà beaucoup de supporters étrangers. Généralement, dans les compétitions, c'est quand même le public local qui peuple les stades. Donc c'est pour ça que je reviens sur cette situation économique et sociale au Brésil désastreuse, qui fait qu'il y a un désintérêt total.
Il boycotte
sur
clairement la compétition.
Exactement. C'est même un désintérêt, c'est même de l'indifférence. C'est ça qui est pire.
Oui, enfin,
pour un autre symbole.
Les tarifs sont prohibitifs.
Mais pas plus que pour une Coupe du Monde.
Le salaire moyen brésilien, c'est 300 euros par mois.
Mais tu connais le tarif d'un billet pour un match de Copa Libertadores ?
Et bah peut-être qu'ils se sont ruinés avec les.
C'est pour ça que je te dis que quand ils veulent se. Non, je peux te dire que la Copa Libertadores va reprendre après la Copa América et que si Palmeiras va enfin, ils sont déjà en huitième de finale, mais qu'au retour ou à l'aller, enfin bref, quand il y aura le match à l'Allianz Park, le stade de Palmeiras, il sera plein. Et ce sera la même chose pour le Corinthians en
ouais, mais encore une fois, tu limites ça au Brésil. Là,
dans une coupe, il y a quand même une majorité des places qui sont prises par les locaux.
Oui. Après, ce qu'il veut dire, c'est que tu sais, quand même nous, on a nos compétitions en France, on a les packs des matchs, tu sais, pas forcément les matchs de l'équipe de France. Et visiblement, je crois qu'au Brésil, complètement, enfin, il y a un désintérêt total de la compétition.
C'est boudé parce que le football masculin actuellement est boudé à cause de ce marasme social, politique et
triste.
Le fait que la Seleção paye les pots cassés.
C'est triste.
Si vous nous rejoignez sur Beurre FM et sur Thaï Sport, on parle de la Copa América et notamment des problèmes, on va dire, pour remplir les stades et des difficultés aussi pour les supporters brésiliens. T'en parlais il y a quelques instants, Simon, pour justement trouver un intérêt pour cette Copa América, c'est ça hein, le sujet.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'au lendemain du match Brésil-Venezuela qui a terminé sur un 0-0, ils sont sortis sous les sifflets. Toutes les unes du Brésil parlaient du match du Brésil féminin.
Ah, et ben,
alors que les Brésiliennes se sont au final qualifiées difficilement dans un groupe dont elles étaient à peu près les favorites. On ressent vraiment que ce monument qu'est la Célessan paye les pots cassés pour tout le climat sociopolitique.
Moi, je pense que c'est révélateur aussi d'un football sud-américain qui est de moins en moins flamboyant, attractif. T'as qu'à voir les dernières perfs en Coupe du Monde. Hein. C'est quand même...
Finaliste en 2014.
C'est plus que ça. Oui, mais tu te rappelles le jeu de l'Argentine.
Quatrième place en 2010.
Oui, on en parlera dans quelques instants de l'Argentine.
Ça fait plus rêver, le foot américain. Ça fait plus rêver le côté Joga Bonito.
Non mais ça, ça, je suis désolé, ça c'est encore c'est très subjectif parce que en Amérique du Sud,
aussi, ouais, mais ça remonte.
En Amérique du Sud, ils ne regardent quasiment pas le football européen.
C'est beaucoup, 5 ans.
De quoi, Guillaume ?
En Amérique du Sud, ils ne regardent quasiment pas le football européen. Je peux vous dire, ils regardent le football des autres pays d'Amérique du Sud, mais par exemple, si on prend le cas du Pérou ou de l'Équateur, ils regardent les pays d'Amérique du Sud avant de regarder les pays européens. Donc encore une fois, il y a de la distance. Mais je vais vous sortir un chiffre sur cette Copa América. C'est zéro. Zéro affiche pour le moment de la Copa América ne s'est jouée à guichet fermé. Et ça, ça symbolise quelque chose quand même.
Bah, bien sûr.
Je suis désolé.
C'est symbole de quelque chose de très profond
donc,
au Brésil.
Il y a forcément une crise sociale et économique qui touche plusieurs pays d'Amérique latine.
Mais le football de club se porte bien et attire les fans. Mais les équipes nationales sud-américaines ne font plus rêver leurs fans. Alors, à part peut-être le Pérou.
La qualification, la qualification du Pérou en 2018. Ouais. Les célébrations au Chili pour les Copa América de 2015 et 2016. Les célébrations en Colombie pour la qualification à la Coupe du Monde 2018. Si les sélections ne font pas rêver foules en Amérique latine, alors là...
En tout cas, pour l'actu de la Copa América, puisque tant qu'on parle de la Copa América, autant parler de l'actualité. Aujourd'hui, on a Uruguay-Japon, dans la nuit, sera à 1h du matin. Hier, il y avait Argentine-Paraguay, et ce match... Faut le rappeler, battu par la Colombie en ouverture, l'Albicéleste qui a été encore une fois accroché par le Paraguay dans la nuit de mercredi à jeudi, un partout. Enfin, ça aurait même pu être pire si le gardien argentin n'avait pas arrêté un pénalty, Simon.
Elle est même affligeante, cette Albicéleste. Elle est affligeante. C'est un.
Parler du désamour peut-être aussi des supporters argentins.
Là, pour le coup, il y a aussi un.
Tu vois qu'il n'y a pas que le Brésil.
Non, mais enfin, il n'y a pas que le Brésil, mais il n'y a pas que le Brésil et l'Argentine non plus en Amérique latine.
Bah,
il y a un énorme amour derrière le Pérou, derrière la Bolivie, même derrière c'est une petite nation.
Le Chili, qui est quand même vainqueur de la Copa América, pour le rappeler.
Donc, pour revenir sur l'Argentine, oui, c'est un bateau sans capitaine. Il a changé quasiment tout son 11, mais il a vraiment changé son 11 d'un match à l'autre. Ça a été plus catastrophique encore dans la nuit d'hier aujourd'hui. Tout va volo pour l'Argentine. Et là aussi, c'est plus profond, mais là, c'est structurel et c'est lié à la fédération où tout le monde se tire dans les pattes, où il y a des guerres intestines et c'est catastrophique.
Et puis, il faut le rappeler pour ce match, évidemment, une ouverture de Richard Sanchez à la 37e minute et puis une égalisation sur pénalty de Lionel Messi à la 57e. Claude ?
Je reviens à ce que disait FX tout à l'heure, d'un point de vue purement sportif et formation. Clairement, là, on parle de l'Argentine, il n'y a plus de joueurs qui sortent, je suis désolé. Il y a plus de joueurs. Tu regardes même la Coupe du Monde, la finale contre l'Allemagne
2014,
en 2014.
Ouais. Le jeu est atroce.
Exactement, mais atroce. Ça fait depuis quasiment 10 ans. Il y a plus de grands joueurs. Mais là, je parle sur toutes les lignes. T'as un joueur par-ci par-là.
Lautaro Martinez, Dybala.
Ça reste faible. Au plus haut niveau sur la durée, t'as plus personne.
On a quand même Neymar.
T'as plus milieu de terrain, t'as plus de défenseur. Avant, longtemps, t'avais des défenseurs rugueux, des milieux de terrain à différents profils, des attaquants. Il y a toujours eu, je suis d'accord avec toi, mais t'as plus rien malheureusement.
Bah, Claude, Foyt attend à Tottenham.
Ouais, mais c'est faible.
Claude,
c'est trop peu.
Tu te rappelles la génération dorée, les pères des Véron.
Là, on a sûrement que tu sors
une génération dorée qu'ils ont totalement saccagée.
C'est quand même
très
bizarre quand on en parle.
À dire qu'il n'y a plus personne,
c'est faux. Quand on en parle, on dirait qu'on parle, tu sais, de la Suède ou du Danemark, où ils ont un ou deux, trois joueurs comme ça. Il n'y a plus rien en Argentine, je suis désolé.
Est-ce qu'il y a une Lionel Messi dépendance en Argentine ? Ça se pose cette question.
Même lui ne peut rien y faire. J'ai l'impression que Messi, il est revenu parce qu'il n'a pas le choix et qu'il est quand même un peu patriote, je pense. Mais franchement, je pense qu'au fond de lui, il a envie de jeter l'éponge.
Pour avoir une Léo Messi dépendance, faudrait-il encore que Léo Messi ait déjà eu une vraie influence sur cette équipe ? En revanche, En revanche, il y a une Mascherano. Il y a eu une Mascherano dépendance.
Mascherano,
et la chute de l'Argentine, elle démarre à la retraite internationale de Mascherano.
Ouais, enfin, Mascherano, t'as vu le match qu'il fait à la Coupe du Monde, c'était déjà laborieux quand même.
D'ailleurs, la Coupe du Monde n'est pas bonne.
Mais regarde, le problème,
la finale 2014, celui qui les emmène au final, l'homme de vestiaire, celui qui unit l'équipe argentine,
c'est
Mascherano.
Ouais.
Pareil en 2016 pour la Copa América, pareil en 2015.
Mais avec lui, malheureusement.
Pour unifier le vestiaire,
le nombre de milieux de terrain défensifs qu'on a connu, qu'il y a eu. Tu vois là derrière, tu étais obligé de le remettre au milieu alors qu'il évoluait déjà en Asie. Malheureusement, le pauvre cramait.
En tout cas, on parle des joueurs de l'Argentine, mais ce qui est catastrophique, c'est le jeu aussi. Ils sont quatrième du groupe B avec un point.
C'est triste.
Un match perdu, un match nul. On s'attend pas ça de la.
Franchement,
on s'attend pas à un match comme ça de la part de l'Argentine. Hein.
Pour moi, ça me surprend pas. C'est dans la continuité de leur Coupe du Monde. Je pensais pas qu'en un an, ils pouvaient complètement renverser la vapeur et redevenir une équipe, non pas flamboyante, mais une équipe qui joue un jeu efficace. Donc pour moi, c'est pas une surprise du tout de les voir là, et je suis triste pour Messi, franchement.
Bah avant cela, il faut savoir qu'en Argentine, il y a eu un règne énorme au sein de la fédération, qui était celui de Julio Grondona, qui menait sa barque d'une main de fer et qui est décédé. Et qui a donc laissé place à, comme tout bon roi, à une guerre de passation entre les différents pôles influents de la fédération, notamment la fameuse guerre entre les partisans de Menotti, César Luis Menotti, l'entraîneur des champions du monde de 86, partisan d'un beau jeu, un peu romantique, et ceux de Carlos Bilardo, qui est le champion du monde, le sélectionneur des champions du monde 78, beaucoup plus pragmatique. Il y a une guerre intestine au sein de cette fédération, et aussi encore une fois politique, parce qu'on a en Amérique latine, le football est intensément politique. Il faut se rappeler que le président argentin, c'est Macri, qui est l'ancien président de Boca. On dit parfois en Argentine qu'une fois que t'es président de Boca, t'es déjà un peu président du pays. et donc cette guerre n'arrange pas les affaires de l'Albicéleste. C'est-à-dire que ce pauvre Lionel Scaloni, qui est le Xème choix pour être entraîneur de cette sélection, même mettons, parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience, mettons ce soit un bon entraîneur, mettons qu'il ait du talent et qu'il aurait pu en faire profiter l'Argentine, le climat autour de la sélection ne peut pas le laisser travailler.
Et surtout, les deux meilleurs entraîneurs argentins qui seraient disponibles sur le marché, à savoir bien sûr Diego Simeone et Marcelo Bielsa, je pense qu'ils n'ont aucune envie d'entraîner.
Ils n'ont aucune envie, ils savent que c'est un bourbier.
En tout cas, la galère continue pour l'Argentine, et désormais, on va dire que la suite et sa qualification dépendra de son dernier match contre le Qatar. Voilà, donc on suivra ça de très près.
Ce sera pas une mince affaire.
Eh voilà, ce sera pas une mince affaire. On se retrouve dans quelques instants sur Beurre FM et sur Thaï Sport. On sera avec notre invité Cédric Doumbé, combattant de kickboxing. On va également parler de la Coupe du Monde et de la CAN. A tout de suite sur Beurre FM.
Thaï Sport revient dans un instant. 18h, 19h, Thaï Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
Et on est de retour sur Beurre FM et sur Thaï Sport avec les consultants Claude Tollet, Simon Balachef, François-Xavier Lambert. On a parlé de la Copa América et maintenant on va parler de kickboxing avec notre invité du jour, Cédric Doumbé. C'est parti, c'est incroyable mais vrai.
Thaï Sport.
Et donc, comme je le disais, notre invité du jour, Cédric Doumbé, combattant de kickboxing Glory. Bonsoir Cédric.
Salut à tous.
Comment allez-vous depuis Strasbourg et le Glory 64 où vous vous êtes imposé par KO contre le champion Harut Grigorian et avoir pris la ceinture?
Bah écoutez, ça va très très bien, je me sens super bien, je suis très en forme parce que j'ai pas arrêté de m'entraîner étant donné que le combat était abrégé à peine au second round. Donc je suis vite retourné à l'entraînement et là je suis encore plus fort qu'avant, donc content.
Et donc quels sont vos prochains objectifs actuellement?
Bah là, c'est une défense de titre samedi prochain, le 22 juin, au Zénith de Paris. Donc, je vais défendre ma ceinture et garder mon titre. Voilà mon prochain objectif.
Cédric, maintenez-vous votre déclaration dans laquelle vous clamez « McGregor en MMA, je vous fume ».
Bien sûr que je le fume.
Est-ce qu'on peut avoir une explication sur cette déclaration?
Bah, c'est très simple. Quand je regarde McGregor combattre et quand je me vois combattre,
Allô? Eh non, je crois qu'on a perdu, euh, On a perdu notre invité. On sera avec Cédric Doumbé dans quelques instants. On va parler un peu de la kickboxing, Glory. Est-ce que vous suivez un peu la kickboxing, cher consultant, chère consultante?
Pas du tout.
Pas du tout.
Je reconnais.
Tu reconnais? Pas du tout.
Moi, j'essaye de combattre dans ma chambre. Par contre, concernant Cédric, que je connais un petit peu, je l'ai vu hein, depuis 2-3 ans monter en puissance. Et c'est vrai qu'il a une confiance en lui assez extraordinaire, mais qui se confirme sur le ring, quoi. Il est particulièrement efficace.
Et la Glory, c'est communément appelé Glory, c'est une promotion internationale de kickboxing fondée en 2012 à Singapour.
C'est un peu avec des champions.
Voilà, exactement.
Discipline.
Exactement. Et alors, on va voir si on peut récupérer notre invité dans quelques instants avec notre réalisateur. On va parler un peu de Cédric Doumbé et de la MMA. Où en est l'histoire d'amour? On saura ça dans quelques instants. La MMA, quelle est la différence entre la MMA et la kickboxing, Claude?
Attends, tu me mets un vrai quiz. Hey, je sors des...
Moi, je sais, j'ai oublié son nom, mais on nous l'a expliqué sur le plateau.
On nous l'a expliqué, Guillaume.
Fois. Voilà.
J'étais pas là.
Le kickboxing, c'est juste pied-point.
Exactement.
Et le MMA, tu continues au sol.
Eh ben, en tout cas, on va vérifier ça tout de suite avec notre invité. Bonsoir. Bonsoir, Cédric. On est à nouveau ensemble.
Ouais, bonsoir, je sais pas ce qui s'est passé.
Donc,
c'est McGregor qui a piraté les livres, je pense.
Voilà, on disait on disait justement une petite explication sur cette déclaration. McGregor en MMA, je vous fume.
Alors, vous avez entendu ce que j'ai dit ou il faut que je vous...
Non.
Alors, donc, c'est très simple. Pourquoi littéralement j'ai dit que je le fumais, ce qui veut dire qu'en fait je le bats vraiment à plate couture. C'est-à-dire que quand je regarde McGregor combattre et quand je vois mon style de combat, bon, il n'y a pas trop de différence au niveau de la technique, parce que c'est un combattant très technique. Par contre, il y a une différence qui est majeure, c'est le punch. C'est-à-dire que moi, je peux arrêter un combat à n'importe quelle seconde, ce qui n'est pas son cas. Donc je suis très confiant, moi, en ce qui concerne un combat contre McGregor, parce qu'au niveau du striking, du pied-point, je suis le meilleur. Et lui, au niveau du sol, de la lutte, etc., c'est pas le meilleur. Donc j'ai toutes mes chances.
Bah, faut que ça s'organise, ce combat, alors.
Mais bien sûr, ça va se faire, ne vous inquiétez pas, j'arrive.
Bon, eh ben, on y compte bien, on suivra ça de très près. Et donc, du coup, Cédric, où en est votre amour avec la MMA?
Ah, j'adore la MMA, j'adore regarder, j'adore m'entraîner, et je vais y aller. C'est, comment dire, la reconversion est proche. Pour l'instant, je défends mes ceintures de champion du monde de kickboxing. Je m'entraîne vraiment dans l'ombre pour l'instant. Et voilà, courant décembre, normalement, je serai officiellement aux États-Unis. Et je commencerai justement cette immersion totale en MMA, tout en défendant ma ceinture de kickboxing. Et un an plus tard, vous assisterez à mon premier combat, à mon premier meurtre en MMA.
Et ben on l'espère bien. En tout cas, on se posait la question avec les consultants de savoir la grande différence entre la kickboxing et le MMA.
Alors c'est très simple. Le kickboxing, c'est un sport de combat qui se pratique debout. Très simplement, debout. Alors en kickboxing et en MMA, on a les mêmes tenues, peu importe. Maintenant, la différence avec le MMA, c'est que le MMA mix martial art, c'est donc le mix de tous les sports de combat. C'est-à-dire qu'il y a des phases debout et ça peut très bien aller au sol aussi. Alors, après, il y a des différences de technique. Hein. Tous les coups ne sont pas permis, bien sûr. On n'a pas le droit de taper dans les parties, on n'a pas le droit de taper derrière la tête. Et on n'a pas le droit de mettre un coup de pied au visage quand l'adversaire est au sol.
Donc ça, c'est les grandes différences entre le MMA et la kickboxing. En tout cas, on sait également que vous êtes un grand admirateur de Floyd Mayweather. Vous souhaiteriez vous inspirer de sa carrière d'homme d'affaires, c'est ça?
C'est ça. Un grand admirateur, c'est un peu grand, mais oui, c'est l'un de mes modèles, ouais, dans ce sport.
Et pourquoi? Il y en a d'autres?
Bah parce qu'il a très, très bien su gérer cette carrière, parce qu'il est parti de rien. C'est une histoire aussi qui m'émeut. Il est parti de rien, il a une histoire de vie très difficile, très compliquée. Donc je me retrouve un peu dans son histoire, et c'est pour ça que j'admire le personnage déjà, j'admire l'athlète aussi, surtout.
En tout cas, pour revenir un peu sur le début de l'interview, votre prochaine date, c'est quand?
Mon prochain combat, c'est samedi, ce samedi, 22 juin.
Ce samedi au Zénith.
Oui, au Zénith de Paris, à la Villette. Défense de titre contre Alim Nabiev, Azerbaïdjan.
Bonsoir Cédric. Ça devrait le faire samedi, ouais. Sans aucun problème.
Bah, ça va le faire avec moi, ça le fait toujours, vous inquiétez pas. Là, je suis très très bien entraîné, en plus je suis très confiant, comme vous pouvez remarquer. Alors c'est pas de l'arrogance, attention, c'est de la confiance, je suis sûr de moi, et parce que je suis très bien entraîné, j'ai toutes les cordes à mon arc, et toutes les, et la balle est dans mon camp en fait.
Mais justement Cédric, où vous êtes allé chercher cette confiance que vous avez en vous et qui porte ses fruits hein, sur les rings?
Bah, c'est simple, quand on... il faut savoir que la partie mentale est très importante aussi, très importante pardon, dans ce sport, dans la vie en général. Quand on s'auto-persuade qu'on est le meilleur, ben on finit par le devenir. Et ça, c'est mon cas. Ma devise, c'est « je suis le meilleur alors que le meilleur gagne ». Ben, à force de me la répéter, cette devise, ben, aujourd'hui, je le suis. Et je m'entraîne beaucoup. Tous les jours, je fais beaucoup de sacrifices pour arriver au niveau où je suis. Et donc, ça porte ses fruits.
Donc, du coup, on retient ce rendez-vous ce samedi 22 juin, voilà, au Zénith de Paris, au Zénith de la Villette pour le... Pour le Glory 66, avec vous Cédric, Anissa Ameksen également et Artem Vakitov, voilà, qui sont au programme. En tout cas, on pourra retrouver cette interview sur beurrefm.net. Merci Cédric, et puis on vous souhaite tout le meilleur, le courage, la force.
Merci à vous, merci beaucoup.
Merci, et puis à très vite voilà, sur l'antenne de Beurre FM et avec l'équipe de Time Sport. Après notre interview du jour avec Cédric Doumbé, donc combattant de kickboxing qui sera au Glory voilà, ce week-end, on va passer à la Coupe du Monde 2019 et c'est la victoire.
Time Sport, la victoire.
Alors, une victoire, oui et non, puisque évidemment, ce match s'est terminé sur un match nul, même si on peut dire que c'est une victoire pour l'Argentine, puisque Écosse-Argentine, ça s'est terminé sur 3-3. L'Argentine qui revient de loin et qui élimine l'Écosse. Miracle et folie au parc. Simon.
Ah oui, miracle. Quel match. Là, on en a eu pour... Enfin, ceux qui y étaient, on en a eu pour leur argent. Et nous, on en a eu plein les mirettes. Ouais, des scénarios comme ça, je prends. Et puis, en plus, c'était un beau match sur le plan technique. Donc, il y a tout. Enfin, même si, du coup, voilà, il y a vraiment une mi-temps chacune, j'ai envie de dire. Après, ouais, non, c'est fantastique pour cette équipe d'Argentine parce que le football argentin féminin, on est presque à l'année 1, on va dire. C'est pas l'année 0, mais à l'année 1, puisque le football féminin est devenu officiel au sein de la fédération seulement l'année dernière. On parle quand même de l'Argentine, qui est un des plus grands pays de football. Donc les voir attraper ces deux premiers points, c'est extraordinaire. Et ce qui est fantastique, c'est qu'elles peuvent encore se qualifier avec ces deux petits points. Ça dépend des matchs, des rencontres des deux derniers groupes, de savoir si du coup le Chili, j'ai plus les équipes en tête, mais si c'est Chili, Cameroun, bon bref, de savoir si les équipes qui sont actuellement aux dernières places, et notamment celles qui occupent la troisième place, resteront avec voilà, il y a le Chili, le Cameroun et je n'ai plus les deux dernières.
Le Nigeria, la Chine.
Ah non,
le Nigeria est actuellement troisième du groupe A.
Ouais. Là, pour l'instant, on a le Brésil à 6 points. Il y a le Nigeria qui termine troisième. Il y a les Chinoises qui terminent troisième.
Le Brésil
ça laisse la quatrième place à l'Argentine. Et il reste encore, du coup, zéro place à prendre. Et voilà, c'est juste ça. Si une des dernières gagne dans les matchs de ce soir, elles passeront devant. Mais s'il y a match nul, s'il y a match nul, en fait, tout simplement, il faut qu'il y ait match nul.
Dans les deux
matchs qui les intéressent.
Et donc ce match hier, il a balancé à la 74e minute, après la 70e minute, avec un but de Menendez. Et il faut le rappeler, un but contre son camp de l'Ajax Lander. Voilà, et puis dans les derniers instants, dans le temps additionnel, voilà, c'est là où l'Argentine est revenue après un pénalty loupé. Ils ont réussi quand même à égaliser. Ils reviennent de loin, ces joueuses de l'Argentine, Claude.
C'était fou. C'est Fada, hein. Fada hier au stade, mais non, après.
Loco.
Exactement. Cette Argentine revient de loin, et puis j'espère en tout cas qu'ils franchiront le tour suivant. Par contre, ces histoires de nouvelles règles, des pénalties, moi je,
au millimètre, quoi.
C'est moi je comprends, enfin je comprends, enfin je comprends pas. Il y a une règle qui est appliquée, mais dans ce cas-là, personne ne rentre dans la surface de réparation, quoi.
Oui. Est-ce qu'on pourrait comparer le taux d'affluence des stades dans la Coupe du Monde féminine et la Copa América?
Il n'y a rien.
Non,
on peut pas comparer.
Est-ce que ça se tente?
Non, mais
ou pas du tout.
Non mais franchement, on peut pas comparer déjà une compétition mondiale qui se déroule en France, qui est féminine, avec une compétition sud-américaine qui en est à sa 46e édition et qui se déroule en Amérique du Sud seulement avec deux invités que sont le Japon et le Qatar. Enfin, je suis désolé, mais...
Non, je sais pas, je soulève ce débat.
Ouais, mais justement...
Alors peut-être que
justement, je pense que... François-Xavier, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense que...
ça me fait plaisir de te voir...
Voilà, il n'y a pas de débat possible, je pense,
sur... Trancher dans le vif comme ça me fait plaisir.
Non, mais c'est vrai, non, mais est-ce que tu irais comparer une Coupe du Monde, toi, avec une Copa América ou avec un Euro?
Non, je parlais de l'affluence, je sais
et
pas.
Ben, ouais, mais l'affluence est forcément plus faible sur une compétition régionale. On parle continentale.
D'une Coupe du Monde féminine, on parle pas non plus de...
Justement, les enjeux sont bien différents, hein. La montée de l'égalité des
ouais,
sexes,
ouais.
Le fait que ce soit en France, que le pays aille bien, à peu près bien.
Donc c'est une comparaison qui peut quand même se faire. C'est pas si...
Moi j'ai juste dit que c'était... On peut comparer, mais c'est pas comparable.
D'accord.
En tout cas, il y a de l'engouement, si on veut en venir là. Il y a de l'engouement pour cette Coupe du Monde féminine de football. Et toi, ça te réjouit, Claude?
Oui. C'est bien. C'est une bonne chose, bonne organisation. Les stades sont quasi pleins, même s'ils ne le sont pas totalement. Mais en tout cas, il y a une bonne influence. Il y a une bonne ambiance. Voilà, faut que ça continue.
Et puis les matchs
dans la durée.
Les matchs sont suivis à la télévision. Aujourd'hui, les matchs du jour, c'est Pays-Bas, Canada, Cameroun, Nouvelle-Zélande pour le moment 0-0. Et ce soir, Suède, États-Unis, Thaïlande, Chili.
Question pour Claude, toi qui coach des équipes féminines, qu'est-ce que tu penses du niveau global de la compétition, du niveau de jeu?
Franchement, il est pas mal.
Ouais.
Après, il est pas mal dans la mesure où, première des choses, ne pas comparer le foot féminin au masculin, ce que tout le monde fait. De toute façon, même si tu ne le veux pas, t'es obligé de faire cette comparaison. C'est humain, c'est tout à fait normal. Mais au vu de ce que je vois, et tu sais, je check surtout les nations soi-disant moyennes qui ont moins de possibilités de s'exprimer. Et ben, je vois des choses quand même plutôt pas trop mal. Alors, bien sûr, t'as des lacunes. Comme chez nous, les mecs. Moi, je regarde la Ligue 1 le samedi soir. Des fois, je vois des matchs catastrophiques. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Au niveau du jeu, on voit clairement que ça progresse. Après, encore une fois, faut vraiment pas faire de comparaison. C'est pas la même puissance. Ça va pas aussi vite. Il y a un gros déficit au niveau de la formation des gardiennes de but, clairement. Mais ce qu'on voit, c'est quand même pas mal. Il y a une volonté de jeu. C'est pas mal.
En tout cas, on va revenir sur une des polémiques durant cette Coupe du Monde féminine. Je pense que vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas sur TF1. Ah. C'est dans l'usage de la sémantique, mon cher François-Xavier. Football ou football féminin. Et ben justement, ça pose souci à certaines personnes que on utilise le mot de football féminin comme si on les met à part. De l'appel football.
Écoute,
non, mais c'est ce que t'as le football, oui, qui est joué par les hommes et le football qui est joué par les femmes. C'est vrai que c'est la même discipline. On a toujours eu l'habitude de dénoncer le football féminin, mais
ça vaut
vrai.
Pour tous les sports.
Mais ça vaut pour tous les sports.
Pour tous les sports. Non, mais
c'est un délire. Il y a certains sports où l'équité est un peu mieux faite et tu précises.
C'est vrai qu'on dit pas tennis.
Volleyball masculin, volleyball féminin.
C'est vrai qu'on dit pas tennis féminin, par exemple.
Voilà.
Bah, tu dis le tournoi femme de Roland Garros, ça choque personne.
Tu dis le tournoi
homme. Oui, voilà, le tournoi homme, c'est vrai. Enfin, c'est vrai.
Mais tu dis pas football masculin.
Cette polémique
alors, tout ça, c'est pas.
Tous les jours, il y a des
polémiques. En fait, c'est que si tu veux, on essaye de. Le football, voilà, le football reste le football, c'est la même discipline, sauf que t'as le football qui est joué par les hommes et les autres par les femmes. Et donc, si tu veux, fixe, tu as des personnes qui aimeraient qu'on dise le football joué par les femmes et non le football féminin.
Et tout ça, ça part d'une ex.
Après, c'est pas grand chose.
Une ex-joueuse. Ça part d'une ex-joueuse professionnelle qui a signé une tribune dans Le Monde, voilà. Ne dites plus jamais football féminin. Si la sémantique utilisée ne semble souvent qu'une question de forme, elle traduit en réalité la personnalité persistance hégémonie, la persistante hégémonie masculine. Voilà, c'est l'ex-joueuse professionnelle française Mélissa Plaza.
Ouais, que je connais bien, mais là-dessus, je suis pas totalement d'accord avec Mélissa dans la mesure où je pense que tu as une bonne majeure partie.
Moi, je suis assez d'accord avec elle.
T'as une bonne majeure partie des gens qui emploient le football féminin, mais qui ont aucune, enfin, qui n'ont pas cette réflexion-là non plus. Faut pas non plus.
Maintenant, ça va être une insulte d'utiliser le terme femme.
Ah non, mais attends, on n'est pas dans l'extrême, François-Xavier. On est en train de.
Ce qu'elle demande seulement, c'est de considérer que ce soit du football, point. Pas du football féminin.
Et encore une fois, je sais pas qui parmi vous disait
football
justement.
Féminin, ça veut dire football joué avec des
non,
femmes.
Mais attends,
je dis pas football masculin.
Je sais pas qui disait juste avant. Prenez l'exemple du tennis. On ne dit pas tennis féminin. C'est vrai.
Mais tu dis le tournoi femme.
Tu précises. Dis le tournoi homme.
Ben oui.
Moi, j'organise des événements sportifs avec mon association et je dis tournoi de football masculin et tournoi de football féminin.
Ouais. Eh ben voilà un bon exemple. On finira avec cette phrase-là, avec cette petite anecdote de notre consultant Claude Tollet. On a parlé de la Copa América, on a parlé de kickboxing, on a parlé également de la Coupe du Monde féminine. Et dans quelques instants, restez connectés, on parlera de la CAN 2019 et du Paris Saint-Germain. A tout de suite sur Beurre FM.
Time Sport revient dans un instant. 18h-19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
Et on est retour sur Beurre FM et sur Time Sport avec les consultants, notre coach national Claude Tollet, Simon Balachef et François-Xavier Lambert et notre réalisateur Hugo Lombard. On a parlé du PSG, on a parlé également de la Coupe du Monde féminine et maintenant on va parler de la CAN 2019, c'est le duel.
Time Sport. Le duel.
Et le duel, voilà. Alors que le coup d'envoi de la CAN 2019 sera donné vendredi au Caire, en Égypte, de nombreuses sélections comptent sur le renfort des joueurs binationaux français à l'image d'Andy et Delors en Algérie pour remporter la prestigieuse Coupe d'Afrique. Est-ce que, évidemment, ces renforts binationaux vont parce qu'on parle beaucoup des binationaux, mais est-ce que ça va finalement être une plus-value, Claude?
Bah. Ça peut, dans la mesure où tu as en général donc ces joueurs qui sont formés, on va parler de la France, qui ont formé en France, donc une structure, une rigueur assez importante qui peut que faire du bien. Après, il y a pas que ça. Hein, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un environnement, c'est un contexte, c'est s'adapter au pays. Enfin, il y a plein de paramètres à cela, mais t'as envie de te dire que oui, ça peut ramener un plus en termes de qualité. Technique ou en termes de jeu, mais ça ne fait pas tout.
On parlait d'Andy Delors et de cela, né à Sète d'une mère algérienne, il a indiqué en mai 2018 vouloir jouer pour l'Algérie avec l'espoir d'être sélectionné pour la CAN. Chose faite, il a rejoint in extremis la liste des 23 des Fenech à la faveur d'une exclusion prononcée contre un joueur de la sélection. C'est une bonne nouvelle quand même d'utiliser des binationaux et puis de les mettre aussi en avant, François-Xavier.
Bah, on peut discuter de la sincérité de leur démarche. Je pense que tu as aussi des joueurs qui sont bien contents d'avoir un plan B parce qu'ils n'ont pas le niveau pour l'équipe de France. Faut pas se mentir là-dessus. Après, Andy Delors, c'est un très bon joueur. Je pense qu'il a toute sa place pour jouer en équipe d'Algérie. Il n'y en a pas tant que ça, hein, je pense, des binationaux qui peuvent.
Il y a Brahim Thiam.
Ouais, t'as Brahim Thiam, mais t'en as pas tant que ça qui peuvent vraiment faire la différence et apporter une plus-value pour leur équipe. T'as Riyad Mahrez aussi, ouais. Mais tu vas voir que la liste s'arrête assez vite. J'ai pas tous les noms en tête, mais je pense pas que, comme tu dis, Claude, ça va jouer sur ce genre de renfort, contrairement au Qatar qui, lui, n'a pas d'équipe du tout. C'est un autre débat.
En tout cas, si on regarde, par exemple, les Léopards du Congo, ils aligneront 9 joueurs binationaux, dont un certain parfait Mandanda, frère de Steve Mandanda, gardien de l'équipe de France, je le rappelle, ou Cédric Bakambu, natif d'Ivry-sur-Seine en région parisienne. Donc ça fait quand même pas mal de joueurs, hein, quand on voit le Congo, par exemple, ils ont 9 joueurs.
Oui, parce que le Congo, t'as une forte communauté congolaise
Ils sont là,
donc forcément, oui, alors après, il y a une réalité aussi, c'est en termes de potentiel. Si tu prends l'exemple sur la RDC, les meilleurs joueurs d'origine congolaise, français d'origine congolaise, évoluent en France.
Et en Mandanda, équipe de France. Et
Matuidi, il y a eu Mangala par le passé, il y a Kipembe... Voilà,
c'est des liens qui sont historiques entre ces deux continents, a fortiori avec la France.
Bien
et
sûr.
Et aujourd'hui, ça s'en ressent sur les sélections.
Bien sûr.
Comme tu le soulignes très bien, les sélections africaines, mais européennes aussi.
Bien sûr. Alors après,
l'Angleterre avec les joueurs d'origine ghanéenne.
Après, il serait intéressant de voir dans les années à venir, Mais tout va dépendre en réalité de l'évolution économique du continent africain et du professionnalisme aussi. Tu vois que sur certaines sélections comme le Sénégal, il y en a énormément hein, qui sont issus de la France et qui jouent pour leur sélection. Au Maroc, pas mal, mais ça reste encore trop peu. Mais ça on sait qu'il y a toujours eu un potentiel fort important. Hein, mais
c'est bon. Comme le dit FX, il y a à boire et à manger là-dedans. Je pense qu'il y en a, pour la plupart qui doivent avoir un sentiment honnête d'appartenance à ce pays qui est celui de leurs parents. Il y en a en effet qui doivent être assez opportunistes et mine de rien être international. Après, ça change ton contrat
ouais,
quand
sûr.
Tu signes
bien
dans
sûr.
Les clubs. Il y en a qui se créent des belles histoires. Moi, je pense à Jérémy Morel. Jérémy Morel, à son âge, il a sa carrière derrière lui. Il a plus l'ambition d'être un international. S'il va à Madagascar, à mon avis, c'est vraiment pour le kiff.
Mais attends, Morel, il n'a pas joué pour une équipe en Coupe des Caraïbes.
En CONCACAF ? Enfin, ouais. En Gold Cup ou
en Gold Cup,
je crois
il
pas.
Me semble.
Bah, en tout cas, pas en date FIFA, parce que sinon, il pourrait pas en match officiel. Mais sinon, il pourrait pas.
En tout cas, ça fait beaucoup parler pour cette CAN 2019, messieurs. C'est la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, du 21 juin au 19 juillet. 24 équipes, mais surtout un match d'ouverture qui s'appelle Égypte-Zimbabwe. Est-ce que ça fait rêver, Claude?
Égypte, oui, c'est un monument du football.
Oui, c'est
un monument.
Non, mais quand tu démarres une CAN, est-ce que ça fait rêver Égypte-Zimbabwe?
C'est comme si tu avais une Copa América et que le Brésil qui jouait contre la Bolivie en match d'ouverture, ça fait quand même rêver. Est-ce que c'est le Brésil qui joue? L'Égypte fait quand même rêver, je suis désolé.
En tout cas, ça se discute sur les réseaux sociaux.
Pour une bonne partie de la planète, je sais pas moi, un match d'ouverture France-Sénégal. Bah, ça ne fait rêver que les Français et les Sénégalais. Hein.
Aux États-Unis, t'as vu 94, t'as vu Allemagne-Bolivie. Bah, ça faisait rêver que les supporters allemands. Enfin,
d'accord.
Allemagne-Costa Rica en 2006.
Oui. Brésil-Écosse en 98.
On peut en faire plein comme ça. Ouais, mais là, on parle de la CAN 2019. Il y a eu pas mal d'histoires autour de la CAN. Quand on a une ouverture qui s'appelle Égypte-Zimbabwe, est-ce que ça fait rêver
à l'échelle africaine, oui. À l'échelle africaine, FX, pour répondre à ta question, oui.
Et puis le Zimbabwe, ils sont dans le calendrier, ils sont qualifiés. Il faut bien qu'ils jouent. Ils sont que dans la poule de l'Égypte. C'est eux qui tombent sur le match.
Mais pas qu'ils jouent, c'est ça.
Alors
vous avez pas envie qu'ils jouent.
On n'a pas dit ça. FX.
Non, moi je pense que ça fait pas rêver les foules, mais comme dit Claude, après il y a des. Il y a des symboles. Je veux dire, le Zimbabwe, c'est un pays. Tu parlais du Brésil qui est en difficulté économique. Le Zimbabwe, c'est un des pays les plus pauvres du monde,
ouais.
Qui est dans une situation économique dramatique. On va pas refaire un nouveau exposé politique à ce micro, mais il y a un symbole. Oui, c'est bien que le Zimbabwe participe à la CAN. Après, l'état, les forces de cette équipe, perso, je connais pas vraiment, mais je crois que ça reste assez faible. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de suspense pour ce match-là, mais le symbole, il est beau pour le Zimbabwe, en tout cas.
En tout cas, il est beau, voilà, pour une ouverture. Moi, j'ai envie d'avoir votre avis, messieurs. En tout cas, c'est vendredi, ça démarre avec, voilà, comme je l'ai dit, Égypte-Zimbabwe, c'est jusqu'au 19 juillet. On en parlera évidemment longuement ce vendredi. Avec notre invité Simon, tu veux rajouter un petit mot?
Oui, tu le disais, ça va être une fête pour le Zimbabwe, qui sont qualifiés, car tout le monde a le droit de jouer au football, même les petites nations, et nations du football, comme le Qatar.
Finale.
Et si tu penses que le Qatar n'a pas une vraie équipe, c'est que tu ne connais pas l'actuel travail depuis 15 ans de la sélection qatarienne.
Ah oui, mais combien de joueurs qui composent?
Mais c'est un autre débat.
Un autre débat, mais tu vas pas me faire croire qu'ils n'ont pas joué sur les nationalisations.
C'est au moins 80%.
C'est un autre débat.
Non,
c'est
80% de Qataris.
Messieurs, c'est un autre débat. On en parlera une autre fois de ce débat-là, et notamment du Qatar. En tout cas, je le rappelle, le début de la CAN, c'est demain. On va consacrer deux heures sur Beurre FM avec Momo Sissoko pour parler de cette CAN demain. Claude, tu seras avec nous?
Je serai là. Hein. Tu chambres ou quoi?
Bien évidemment. En tout cas, après la CAN, on va parler du PSG et de Neymar. C'est le mode pressing.
Time Sport, le mode pressing.
Le mode pressing, c'est peut-être celui du FC Barcelone, en tout cas annoncé sur le départ du Paris Saint-Germain. Neymar, le Brésilien, qui serait sur les tablettes du FC Barcelone. Cependant, en cas de retour en Catalogne, la star brésilienne devrait présenter des excuses publiques au Blaugrana. Est-ce que vous y croyez, messieurs? Simon.
Pourquoi pas, il a envie de partir. Actuellement, le PSG, à mon avis, peut-être pas mal intérêt à s'en séparer.
Est-ce que ça sera Barcelone?
Est-ce que ce sera Barcelone? Il a quand même dit, moi je veux retourner à ma maison. Donc sa maison, faut se demander ce que c'est. Est-ce que c'est Barcelone ou est-ce que c'est Santos?
Exactement.
Est-ce que Santos peut se le payer ? Ça, je ne pense pas. Est-ce que lui peut se payer son transfert à Santos ? Ah, peut-être. Si vraiment il souhaite revenir au Brésil, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est au fond du trou moralement et qui, à mon avis, quand il parle de sa maison, c'est le Brésil et c'est Santos. Hein. C'est ça, sa maison.
En tout cas, les Blaugrana, ils sont très vexés de la manière dont Neymar avait quitté le club en 2017. C'est une mauvaise nouvelle pour Paris, François-Xavier, Neymar qui sur le départ.
Je vais te faire une réponse de Normand, mais oui et non. Je pense que sur le plan sportif, évidemment, c'est une perte parce que quand même, quand il n'a pas été blessé, il a quand même été toujours décisif, hein, sauf évidemment il a pas joué les matchs les plus importants de Ligue des Champions. Après sur le plan mental, sur l'image qu'il véhicule sur la scène internationale, je pense que c'est une bonne chose que le PSG s'en débarrasse, et c'est pas pour rien que le Qatar accepte de négocier son transfert.
En tout cas pour le moment c'est des rumeurs, on suivra ça de très près. François-Xavier, merci à vous auditrices, auditeurs d'avoir passé une heure avec nous, voilà, pour parler de l'actualité sportive. Merci aux consultants Claude Tollé, Simon Balachef, François-Xavier Lambert. On se retrouve demain 18h-19h sur Beurre FM. Bonne soirée à toutes et à tous.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.